Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Ah, quand même, il était temps. Bonjour Clémentine.
Oui, c'est un peu lent tout ça.
Oh là 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 là, mais dites-moi. Allez, 32-10 aujourd'hui, ils sont là, Agathe, Mylène, sont là pour répondre. Vous pouvez vous inscrire, c'est en direct, on est ensemble jusqu'à 14h30 sur RTL. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, intégralité des livres historiques Larousse, il y aura également un ordinateur portable. Et sachez-le tout de suite, Clémentine, bien que vous ayez envie de me gourmander, je le vois rien qu'à vos yeux, ils partiront pour un séjour au Puy du Fou.
Oh, bah alors là, qui songerait à vous gourmander une seule seconde, Laurent? Moi, je pourrais y passer ma vie. En tout cas, je me réjouis d'avance pour nos candidats. J'espère qu'ils vont décrocher ce prix, car vous savez tout le bien que nous pensons du Puy du Fou.
Alors, dites-moi, logement à la Villa Gallo-Romaine, ils verront la Cinécénie.
Ah, quel fameux breuvage romain. J'ai goûté ça il y a 3 semaines. Oui, c'est pas mauvais.
C'est pas mal. Non, ils vont passer vraiment un beau séjour dans ce parc unique qui était, je vous le rappelle, primé aux États-Unis Awards du plus beau parc au monde. Cocorico, nous voilà bien. Eh bien, qui va donc avoir la chance peut-être de partir à ce Puy du Fou en répondant correctement aux questions du Grand Quiz? C'est Basile et son frère. Bonjour Basile.
Bonjour Laurent, bonjour Clémentine.
Bonjour Basile.
Alors Basile, 17 ans, c'est bien ça?
Oui.
Tu habites à Saint-Philbert du Peuple, c'est près de Saumur, dans le Maine-et-Loire.
Ah, c'est un nom étrange. Voilà, pour c'est un petit village, Saint-Philbert du Peuple.
C'est Saint-Philbert.
Oh, c'est quelques 1000 habitants.
1000 habitants.
C'est l'appellation
qui est étrange. Saint-Philibert du Peuple, ça paraît à la fois.
Alors, c'est Saint-Philbert, je crois.
Ah, bah, ouais. Alors,
c'est ça, vous savez, Philbert, c'était.
Ah, c'est que le réalisateur a encore très mal écrit mon texte.
Saint-Philbert, c'est en Vendée. Vous savez, c'est pas loin du Puy du Fou, d'ailleurs. Saint-Philbert de Grandlieu, ça s'appelle, voyez. Alors, Basile, quelle est la période de l'histoire que tu préfères?
La mythologie romaine.
Mythologie romaine, d'accord. Basile, tu es inscrit avec ton frère qui s'appelle Tom. Bonjour Tom.
Bonjour Laurent, bonjour Clémentine.
Bonjour Tom. Bonjour.
Tom, quel âge as-tu?
13 ans.
D'accord, et tu t'intéresses à l'histoire comme ton grand frère?
Oui.
Ah, ils sont très...
la mythologie grecque.
Oui, ils sont très antiquités ces deux messieurs. Qu'est-ce que vous allez nous dénicher comme bonus pour Basile, qui aime l'antiquité romaine, et Tom, antiquité grecque?
Eh bien, écoutez.
Oh non. Ah non, 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 non.
Ah, vous dites Basile.
Ah non, 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 non.
Si vous dites Basile, il envoie la bande à Basile.
Ah non, je suis pas d'accord. Ah, voilà.
C'est Basileus.
Ah, très beau. Ah, voilà, messieurs, voilà. Ça, c'est l'antiquité byzantine. Ça vous mettra d'accord tous les deux. Oh, c'est magnifique.
Alors, ça sera un bonus Basileus qui veut dire roi en grec. Voilà, Basileus, comme vous préférez. Voilà, c'est le Basileus. Ouais, c'est bien pour vous, ça.
Non, mais la chenille, non, je
rêve.
Ah,
bah, vous dites Basile,
Dédé.
Voilà.
Ah, non, non, non. Faites-le taire.
C'est bien parti, cette émission. Basile et Tom, bonne chance, les garçons. Vous savez que pour avoir ce bonus, il faut répondre à 3 questions qui sont relatives à votre situation géographique et à vos amours historiques, enfin, affinités historiques. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller, les garçons, Basile et Tom?
Oui, je suis prêt.
Écoutez bien, à l'abbaye de Fontevaux, dans le Maine-et-Loire, donc proche de chez vous, reposent plusieurs souverains d'Angleterre. Henri II et sa femme Aliénor d'Aquitaine, ainsi que leur fils. Quel est son nom?
Richard Cœur de Lion.
Très bien.
Eh ben voilà, Basile, ça c'est fait. Selon la légende grecque, Télémaque est le fils de Pénélope. Mais quel est le nom de son père? Qui était l'époux de Pénélope pendant qu'elle tissait et qu'il était parti loin?
Ulysse.
Oui, bravo.
Le roi d'Ithaque. Bien joué, Tom.
Le roi d'Ithaque.
Et enfin, sous quel nom Octave devient-il le premier empereur de Rome?
Auguste.
Oh, magnifique. Ça.
On applaudit, hein, Clémentine. Et dites donc, les garçons, quand vous dites que vous aimez l'antiquité romaine et grecque, là, vous ne nous avez pas menti, hein. Les deux, hein. Bravo.
Ah, vous allez avoir un beau bonus Basileus.
Voilà.
On va se régaler.
Ah oui, on aime ça, nous. Ça me rappelle.
Attachez les mains du réalisateur, là, s'il vous plaît.
Tiens, mettez-moi un coup de la bande à Basile. Allez, vas-y, tiens.
Ah, oh, mais non. Mais je vois ça. Une fois encore, et moi, je quitte ces lieux. Hein.
Basile et Tom, bonne chance. C'est Tom qui va attaquer, 13 ans, qui habite près de Saumur dans le Maine-et-Loire. Il y aura 3 questions pour toi, Tom, dans un petit instant. Vous écoutez bien Grand Quiz des Histoires de France. Vous savez quoi? Vous avez de la chance.
Vous écoutez RTL. RTL.
Le Grand Quiz des Histoires de France.
Laurent Boyer.
Jusqu'à 14h30 avec Clémentine, nous sommes avec vous. Vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire ce soir. Vous brillerez en société, je le sais. Et ils sont avec nous, Basile et Tom, 17 ans, 13 ans, 2 frères qui habitent près de Saumur dans le Maine-et-Loire. Et c'est Tom qui a 13 ans. qui va ouvrir le bal. Est-ce que tu es prêt, Tom?
Ah non. Oui.
Oui. Alors, Tom, on y va, voici ta première question. Et ça ne te concerne pas, sache-le. Le bonnet d'âne des mauvais élèves vient d'une fable de La Fontaine ou de la mythologie grecque, qui est ta spécialité, mythologie grecque?
Ça vient de la mythologie grecque, je pense.
Oui, alors, vu le ton sur lequel vous dites la question, cher gentleman animateur,
vous plaisantez,
là.
Bel ami. Non, oui. Je n'ai rien dit. Aucune influence à monsieur Tom. Le bonnet d'âne est un héritage de la mythologie grecque, c'est vrai, Tom. Il est lié à une histoire de compétition musicale entre le satyre Marsyas et le dieu Apollon.
Oui, alors rappelons au passage, je n'aime qu'un satyre, appelé parfois également un silène, est une créature mythologique mi-homme, mi-cheval. Alors, oui, ouais, merci, cher monsieur. Ça vous rattrape.
Pourquoi vous me regardez comme...
Alors les paysans charmés par la lyre du satyre Marsyas lui disent que même Apollon ne pourrait l'égaler. Le dieu propose donc un concours dont les arbitres seront les muses et le roi Midas.
Vaincu par la merveilleuse lyre divine, le malheureux Marsyas est écorché vif et pendu.
Ça vous fait rire.
Pendu à un sapin.
Mais vous êtes horrible. Ça le fait rire, le malheureux Marsyas écorché vif et pendu à un sapin. Alors, comme Apollon n'est pas content du tout que Midas ait parié sur la victoire du satyre, il l'affuble de deux oreilles d'âne. Et pour cacher sa honte, le roi Midas se couvre la tête d'un bonnet.
Mais dites-moi, il est bien obligé de se confier ce secret à son coiffeur.
Je vois que vous avez le chic pour lever le débat, Laurent. Enfin, c'est un secret bien trop lourd à porter. Donc, le coiffeur creuse un trou dans la terre et lui confie ce secret. Mais bientôt, les roseaux poussent et chuchote au vent un secret qui finit par être connu de tous.
Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin pour raconter des histoires pareilles?
Dans rien, justement, écoutez, c'est ça le problème.
Dans tout leur royaume, on répète, le roi Midas a des oreilles d'âne.
Voilà. Et voilà comment Midas devient la risée de son peuple. Et par la suite, l'âne va conserver quelque chose de cette image négative, la paresse, la mollesse, la désobéissance, l'obstination.
Ouais, et voilà comment les oreilles du roi Midas, en fait, se sont transformées en bonnet d'âne qui couvre les têtes des cancres à l'école.
Oui, enfin, il y a une autre version qui prétend que l'âne étant reconnu comme un animal particulièrement intelligent, on pensait communiquer un peu de cette intelligence aux élèves qui en manquaient en leur mettant un bonnet d'âne. En tout cas, voilà, les oreilles d'âne, c'est le roi Midas, qu'on se le dise.
Et Tom qui adore la mythologie grecque, là, tu es servi, hein, Tom. Hein. Voici ta deuxième question, Tom. Es-tu prêt? Oui.
Oui.
Alors, on y va, écoute bien. L'expression bas bleu.
Bas bleu.
BAS, plus loin, bleu. Désigne une femme de lettres ou une vieille fille?
Alors là?
Ah bah oui, ça je comprends.
Une femme de lettres. Une femme de lettres.
Bravo. Oui. Eh bah voilà, bah Tom, il le sait ça. Ah, ici tout le monde fait des yeux ahuris, bas bleu, mais voilà. À notre génération, Tom et moi, on sait ce que c'est qu'un bas bleu.
Oui. J'ai les bas qui plissent, moi. À l'origine, l'expression « bas bleu » apparue au 19e siècle désignait une femme de lettres. Mais ce mot a pris avec le temps... J'aime bien cette petite musique derrière quand je fais une connotation
oui,
péjorative.
Oui, bah, ça ne vous empêche pas d'avancer, Laurent. Hein.
On dit « bas bleu » comme Molière dirait « femme savante ».
Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, le mot est traduit de l'anglais « blue stocking ». Il désignait au départ les habitués d'un salon littéraire présidé par une femme, Elisabeth Montagu. Oui. Et alors, cette dame, elle tenait un salon chez elle avec certaines de ses amies et les hommes étaient admis à leur réunion. Et parmi eux, paraît-il, un certain Benjamin Stillingfleet qui, un jour, se présenta en bas bleu à après que son hôtesse lui eut assuré que son salon était ouvert aux gens d'esprit et non aux élégants. Alors, vous voyez, c'était pas chic d'arriver avec des bas bleus, voilà.
Du coup, le petit club s'appela par plaisanterie le cercle des bas bleus, sans connotation péjorative toujours. Hein.
Mais oui, mais alors en France, le terme connut le même sort que celui de précieuse au XVIIe siècle pour devenir une critique. Il fut adopté par les conservateurs et les réactionnaires pour stigmatiser des femmes comme George Sand et en général toutes les femmes qui affichaient des prétentions littéraires ou intellectuelles. Flaubert en donne d'ailleurs une définition assez sarcastique dans son dictionnaire des idées reçues, Laurent.
Bas bleu, terme de mépris pour désigner toute femme qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Citer Molière à la pluie, quand la capacité de son esprit se hausse, etc.
Ah oui,
etc.
Vous connaissez ça. Une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de chose, si c'est pas macho, ça.
Oui, et Barbet d'Orvilly, sur le même sujet, écrit « Les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes, ce sont des hommes, du moins de prétention. Et manquer, ce sont des bas bleus. »
Voilà, et bien désormais, vous saurez ce que c'est qu'un bas bleu.
Voici ta troisième question, Tom. En 1887, la Troisième République a racheté l'ensemble des joyaux de la couronne de France, ou a vendu l'ensemble des joyaux de la couronne de France en 1887 ? On a racheté les joyaux de la couronne ou on les a vendus ?
Bah, ils les ont rachetés.
Ah non, ah non, 1800, la tombe, c'est le contraire. C'est la République. Alors la République, les joyeux de la couronne, ça ne l'a pas.
C'est pas son truc, oui. L'État organisa la vente des joyaux de la couronne, un trésor pourtant inaliénable, privant la France d'un patrimoine national vertigineux, à la fois historique, artistique et financier, évidemment. Mais alors dites-moi, Clémentine, pourquoi t'on fait cela ? La France avait-elle alors tellement besoin d'argent ?
En effet, à l'époque, on a évoqué les nécessités financières, mais en réalité, on avait frôlé de peu une restauration monarchique après la guerre de 70. Et là, il s'agissait surtout de faire disparaître un symbole de la monarchie. Et voilà comment la République va livrer aux marchands les 77 486 gemmes et perles de la collection. C'était un beau trésor.
Vous savez quoi, ce trésor en fait datait de 1530. Il avait été constitué par François Ier après sa captivité en Italie.
Oui, parce que vous vous souvenez qu'il a été prisonnier, François Ier.
Vous l'avez raconté.
Il avait été obligé de se défaire de ses plus belles pierres pour couvrir le montant de sa rançon. De plus, la défaite provoqua un désastre financier pour le royaume. Donc, afin de se prémunir à l'avenir de ces désagréments, le roi choisit 8 pièces de joaillerie parmi celles qui lui appartenaient. Et par lettre patente, il décréta publiquement transmettre ce trésor inaliénable au successeur de la couronne.
Les bijoux avaient en effet une double valeur. Ils représentaient un signe extérieur de puissance et de richesse, permettant au roi de France d'incarner dignement leur fonction. Mais ils constituaient également une réserve financière aisément monnayable. Les gemmes servaient ainsi à garantir les empreintes du royaume.
Oui, d'ailleurs, plus d'une fois, par la suite, les joyaux de la couronne seront gagés dans ce but. Mais la vente demeurait interdite. Les joyaux n'étaient perdus que si le royaume ne pouvait rembourser son emprunt.
Alors, écoutez, revenons-en à cette fameuse vente de 1887, Clémentine. Elle fut très décevante, n'est-ce pas ?
Elle fut très très décevante parce que cette profusion soudaine de pierres précieuses va faire baisser leur valeur. Les acheteurs furent principalement des bijoutiers, en particulier le joaillier américain Charles Lewis Tiffany, qui repartit entre autres avec un des Mazarins légué par le cardinal à son filleul Louis XIV.
Alors, quelques pièces furent heureusement épargnées de la vente, dont le régent. Alors, d'autres gemmes furent confiées au Muséum d'Histoire Naturelle, comme le grand saphir que Louis XIV aimait agrafer à sa cravate, et l'émeraude de la Sainte Couronne, dépecée en 1794.
Voilà. Heureusement, la Société des Amis du Louvre, qui a été créée 10 ans après cette vente, tente régulièrement d'acquérir des pièces de l'ancienne collection. En septembre 2010, par exemple, elle a fait l'acquisition du grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie, racheté aux États-Unis. Est composé de 2934 diamants. On pourrait faire des bagues de fiançailles avec ça.
T'as raison, oui. Pour en savoir plus, écoutez, il y a le passionnant livre de Viviane Perret, 1001 carats, joyaux, perles et autres pierreries qui ont fait l'histoire. C'est à la librairie Vuibert, c'est un conseil de lecture de Clémentine. Oui. Donc, forcément, on va voir sur RTL.fr quelques informations. Tom, c'est pas mal. Deux bonnes réponses pour la collègue des Larousse, 20 secondes pour la finale. On va voir comment ton frère Basile, dans un instant, va répondre à ces deux questions.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Allez, Agathe et Mylène sont là, vous pouvez vous inscrire vous aussi, participer à l'émission la semaine prochaine ou quand vous voulez, ou RTL.fr évidemment, mais là c'est en direct, profitez-en. Les amis, nous jouons avec Basile et Tom. Tom, 13 ans, qui a mis 2 bonnes réponses sur 3, c'est pas mal du tout. Son frère Basile, de 17 ans, va jouer maintenant avec 2 questions. Est-ce que tu es prêt, Basile ?
Oui, c'est bon, je suis prêt.
Je te rappelle que t'as ton bonus Basilus aujourd'hui. Écoute. Spécialement pour toi.
Oh non,
la bande à Basile.
Faites-le taire.
On y va, Basile ?
Ok, oui, je suis prêt.
Je sens la tension poindre. C'est en partie par besoin d'argent que Philippe le Bel s'est attaqué aux Templiers. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est faux.
Ça, c'est vrai.
Bah alors Basile.
Non, c'est vrai, Philippe le Bel est un roi qui a couru après l'argent durant tout son règne en fait. Et les Templiers, n'ont pas été les premiers à subir les dommages collatéraux.
Ah oui, là, c'est l'émotion. Philippe le Bel, c'est le roi qui a transformé le royaume de France en un État moderne avec une administration lui permettant de contrôler cet État. Mais cela coûte cher et manque de chance. Pendant plusieurs années de son règne, il y aura de très mauvaises récoltes qui ne vont pas arranger les finances royales.
Alors, s'y ajoutent des guerres coûteuses, notamment les Omega en Flandre et des campagnes contre l'éternel ennemi Clémentine, votre amie l'Angleterre.
Et voilà pourquoi, mais alors ça vraiment c'est une chose qu'on a souvent abordée dans cette émission, Philippe sera un grand créateur d'impôts, de monnaies rapidement dévaluées qui lui vaudront le surnom de faux monnayeur, il va faire appel aux banquiers lombards, les deux frères notamment Albizzo et Muzziato Guidi di Francesi, surnommés la biche et la mouche, qui auront d'énormes pouvoirs sur les finances du royaume. En échange de fortes sommes qu'ils prêtent au roi, ils obtiendront le pouvoir de collecter directement l'impôt et eux vont s'enrichir.
Eh ben, bien tu sûr. Parles. Et les ancêtres des fermiers généraux,
oui,
en quelque sorte,
oui,
ces gens-là.
C'est un peu ça, mais une fois qu'il va avoir spolié les Lombards qui lui ont prêté beaucoup d'argent et qu'il n'arrive toujours pas à rétablir les finances publiques, il va faire payer l'Église qui va lui valoir de fameux ennuis avec le pape. Et en 1302, il convoque une assemblée des trois ordres pour obtenir à nouveau de nouveaux impôts.
En fait, il crée les États généraux.
À ce moment-là, en juin 1306, une fois qu'il s'en est pris aux Lombards, à l'Église, eh bien, il va s'en prendre aux Juifs. Il va faire expulser du jour au lendemain 100 000 Juifs de France afin de saisir tous leurs biens et toutes leurs créances. Et on leur permet quand même de racheter leurs livres de prières. C'est généreux, Philippe.
Et donc, il court toujours après l'argent l'année suivante. Philippe le Bel s'attaque cette fois-ci aux Templiers. Enfin, l'histoire, vous la connaissez, on en a parlé ici. Alors attention, Basile, il va falloir... répondre correctement à la question qui vient.
Là, il faut bien répondre. Et si tu as un doute, n'hésite pas à prendre ton bonus, Basilus.
T'es prêt, Basile ? Est-ce que tu es prêt ? Écoute. Composé par un Français, l'International est chanté dans notre langue dans la plupart des pays du monde. Est-ce que c'est vrai ou faux, Basile ? Cette chanson,
c'est vrai.
Et non, c'est faux. En fait, l'International a été traduite dans une quarantaine de langues, dont le Zoulou, figurez-vous. Hein.
Oui, Laurent, vous nous chanterez peut-être tout à l'heure l'International en Zoulou, en hommage à Gigi, votre maman, qui est une grande fanatique de l'International.
Je vous ai entendu chanter ça avec elle un soir, mon Dieu.
Alors, sachez qu'à l'origine, l'International était une parodie de la Marseillaise. Elle devait être chantée sur la musique de la Marseillaise. Alors, on va essayer.
Faites-le, parce que moi, j'y arrive pas.
Alors, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de l'an. Enfin, ça colle bien. Hein
bon. C'est pas mal, vous êtes très bonne. Ça, je crois que je vais passer en boucle.
Alors,
ça va être le bêtisier de
l'auteur de des paroles, c'est un certain Eugène Potier, communard condamné à mort par contumace, qui avait dû fuir la France pour l'Angleterre, rentrer en France en 1887 après de l'amnistie. Il publie un recueil de poèmes contenant l'International.
En 1888, le poème devient chant. Il est alors interprété par une chorale d'ouvriers lillois, la lyre des travailleurs, et a été mis en musique par un certain Pierre de Jeter, ouvrier lillois, qui dirige la chorale. Et là, on a mis des détails complémentaires. Clémentine, vous êtes régalée avec l'histoire.
C'est très amusant, l'histoire des droits d'auteur. Un frère qui a piqué les droits d'auteur.
Mais ça, vous avez tout mis sur RTL.fr. Et grand bien nous fasse, sachez-le. Donc, vous pouvez avoir la suite et toute l'histoire de l'International.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Et vous avez échappé à quelque chose à propos de l'International dont on vous parlait à l'instant, l'histoire de l'International. Clémentine a trouvé l'International en Zoulou.
Ah oui, c'est très beau, hein. Alors, en zigla, zavwe, ronkwe, wangjel, weng, chungli. Ça veut dire prolétaire de tous les pays, non ?
C'est
ça, oui.
Ça, c'est bien. On joue avec Basile et Tom. 17 ans et 13 ans, ils habitent près de Saumur. Tiens, je vais redonner le nom à Saint-Philbert-du-Peuple. Voilà, ça me plaît bien, Saint-Philbert. Bonne chance, les garçons. Tiens, on va faire la question avec notre partenaire. Vous savez que nous sommes associés à Ça m'intéresse Histoire. Vous verrez d'ailleurs une page consacrée au grand quiz des histoires de France d'RTL dans celui qui est sorti ce mois-ci. Voici cette question, et cette fois-ci, c'est pour Basile. Tu es prêt, Basile ?
Je suis toujours prêt.
On joue pour l'ordinateur portable, hein, je te le rappelle. Écoute bien, dans quelle activité Hitler a-t-il échoué avant de se tourner vers la politique ? S'agit-il de la
peinture.
Voilà, c'est très bien, ça c'est cadeau.
Il y a un très joli film d'ailleurs sur effectivement cette période de Hitler lorsqu'il était
peintre. Un très joli livre d'Éric Emmanuel Schmitt.
Aussi, bravo. Mais vous avez raison, mais dis donc, Basile, bravo. La peinture, Hitler voulait être artiste peintre pour suivre la volonté de sa mère.
Oui, ça c'est sa maman qui voulait en faire un artiste sans doute. Gigi aussi, elle voulait faire de vous un artiste, c'est réussi. Hein. Alors rapidement, le petit Adolphe était sorti du système scolaire. Il a d'ailleurs envoyé de nombreux établissements pour indiscipline et amoralité. Et sa mère l'inscrit alors dans une école de dessin à Munich.
Hitler aura une véritable adoration pour sa mère.
Et une grande haine pour son père. Hein. Il faut dire que le passif familial est assez lourd. Officiellement, le père et la mère d'Hitler sont cousins germains, mais ils sont plus probablement oncles et nièces. Hein. Ça n'est d'ailleurs pas un cas isolé dans cette famille, ce qui entraîne certaines tares congénitales.
Hein. Ah bah là, ce ne sera pas étranger à la politique eugéniste du dictateur, d'ailleurs,
oui,
cette affaire.
En 40, il fera même exécuter une cousine schizophrène avec près de 20 000 handicapés mentaux. Et la haine qu'il voit à son père, qu'il battait, se traduira par la transformation en 1938 du village natal d'Alois Hitler, son père, en champ de tir.
Et voilà, à lire quelques autres enfants troublés, l'article « Mauvaise graine », enfance de dictateur, c'est dans ça m'intéresse l'histoire et c'est passionnant, vraiment, on vous le conseille. Hein. Voici un premier point pour l'ordinateur, Basile, bien joué. Hein. T'es prêt pour ta deuxième question, Basile ?
Oui, je suis prêt.
Alors on y va. Sous quel pseudonyme est plus connu Jean Brûlé, auteur du « Silence de la mer » ? Roll Tanguy ou Vercors?
Basile et Tom.
Vercors, en fait.
Oui, bravo. Vous avez fait ça. Vous avez dû faire ça au lycée, hein, messieurs. Silence de la mer de Vercors.
C'est un nom qu'il a pris dans la résistance au début de la guerre, hein, Clémentine.
Oui, avant la guerre, il était illustrateur et il publiait dans des revues des petites bandes dessinées. En 39, il est mobilisé près de Saint-Romand, au pied du massif du Vercors, d'où son nom de résistant.
En 1941, avec Pierre de Lescure, il fonde une maison d'édition clandestine dont il dessine lui-même le logo, hein, une étoile. Ce sera les éditions de Minuit.
Les éditions de Minuit, oui. Le 20 février 42 est publiée la première nouvelle de cette maison d'édition particulière et précisément c'est Le silence de la mer qui devient un véritable hymne à la résistance. Quand le manuscrit parvient à Londres, le général de Gaulle ordonne qu'il soit immédiatement réédité pour qu'il soit diffusé.
Après la guerre, Vercors fait partie du comité d'épuration de l'édition, mais il en démissionne rapidement car il n'y voit aucune justice, hein, c'est ça ?
Oui, c'était un homme profondément pacifiste. D'ailleurs, il signera en 1960 le manifeste des 121 qui prônait le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Il a également refusé la Légion d'honneur.
Et Vercors nous a quittés le 10 juin 1991. Voilà, c'était une forme d'hommage.
Un jour anniversaire aujourd'hui.
Voilà, on lui rendait hommage à M. Vercors. Deux bonnes réponses pour l'ordinateur, 40 secondes pour la finale, c'est pas mal. Hein, Basile, je te rappelle que tu as toujours ton bonus Basileus, hein, le roi grec de ton nom. Voici ta... Regarde comme il est beau ce bonus.
Attention, hein.
Ouais, il est magnifique ce bonus ce matin. Voici ta troisième question, Basile. Bonne chance. Qu'est-ce que l'opération Fortitude ? Le débarquement de Provence ou la ruse faisant croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais ?
La ruse concernant le débarquement dans le Pas-de-Calais.
Bravo. Une ruse visant à faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Le débarquement de Provence, c'était l'opération Anvil Dragoon. Et le débarquement en Normandie, c'était l'opération Overlord.
Tout à fait, Laurent. Alors, Fortitude a parfaitement rempli son rôle, intoxiqué les Allemands. Mais pour cela, il a fallu employer d'énormes moyens, des milliers de chars et d'avions gonflables qui sont déployés sur le sud-est de l'Angleterre face aux côtes du Pas-de-Calais. Le tracé le plus évident pour les débarquements, car le plus court, évidemment.
Oui. Des véhicules de ravitaillement sillonnaient cette zone en permanence pour que les avions allemands rendent compte d'une activité importante dans cette zone. Hein,
oui, alors on va aussi saturer la radio alliée de messages faisant croire à des manœuvres de ces divisions fantômes, de ces divisions gonflables en somme.
Ouais,
mais
ça.
Encore plus malin, les alliés sont arrivés à faire croire aux Allemands que le débarquement en Normandie le 6 juin n'était qu'une opération de diversion afin de retarder des renforts allemands en Normandie.
Alors, enfin, les alliés ont eu une aide inattendue, c'est la météo. Oui, parce que écoutez bien, les météorologues allemands n'avaient annoncé que du mauvais temps pour ces premiers jours de juin 44, rendant impossible tout débarquement. Alors que les météorologues britanniques, eux, ont décelé une accalmie qui aurait dû se produire entre le 5 et le 6 juin, c'est ça.
Ils sont bons les météorologues anglais, il faut dire que prévoir la pluie chez eux, il ne faut pas non plus être extra lucide. Enfin, l'ensemble des opérations d'intoxication pour toutes les opérations militaires alliées, dont Fortitude était une composante, était concoctée par le London Controlling Section et avait été baptisée Opération Bodyground.
Et voilà tous ces renseignements évidemment sur RTL.fr. Vous retrouvez toutes les questions tout au long de la semaine. Elles y sont les questions. Basile et Tom, vous venez de gagner l'ordinateur portable, les garçons.
Super.
Comment vous allez faire? Vous le partagez?
On le coupe.
Tom prend le clavier et Basile l'écran. C'est très simple.
Vous avez gagné votre ordinateur. Bravo, les garçons. Vous avez 50 secondes pour la finale. C'est pas mal du tout. Cela dit, il y a toujours. Tom va jouer dans un instant. Il aura même son bonus Basileus pour son frère à utiliser. Vous écoutez bien Grand Quiz des Histoires de France. C'est ça, RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 14h30, le Grand Quiz des Histoires de France.
Oh, le revoilà avec son bonus Basileus.
Ah non, mais il me cherche celui-là. Hein.
Le bonus de Basile. Ah, voilà le vrai bonus. Tom.
Le premier, c'était le vôtre, Laurent. Celui-là, c'est bien.
T'as raison. Ouais. Tom, qui a 13 ans, joue avec
nous. Chacun son métier.
Avec son frère Basile. Tom, là, tu es détendu. Un ordinateur portable est gagné. Tu joues pour du temps complémentaire pour la finale. Est-ce que tu es prêt, Tom?
Oui.
Alors, on y va. Bonne chance. Comment le caporal Cellier s'est-il distingué pendant la guerre de 14-18? Fut-il la première victime de la guerre ou le premier clairon à sonner le cessez-le-feu?
Le premier clairon à sonner.
Tout à fait. On pourrait se mettre un petit bus, hein, là.
Je ne sais que... Je sais qu'il ne fut pas la première victime de la guerre car nous avions fait une question à ce sujet. La première victime de la guerre de 14, je m'en souviens, était un certain caporal Peugeot.
Oui. Donc... Bien vu, Laurent, oui, tout à fait.
Dans le livre, il y avait écrit le nom de la première victime de la guerre et c'était pas ce nom-là.
Tout à fait. C'est très bien, Tom, tout à fait. C'est le caporal Peugeot.
Oui, il a lu le Grand Quiz des Histoires de France, tu vois, Tom.
Ah, c'est bien ça, voilà. Oui, bravo.
Dites-moi, Clémentine, ce caporal Cellier sonna l'armistice.
Oui, tout à fait. Le caporal Clairon-Pierre Cellier du 171e mairie, originaire de Beaucourt, près de Belfort, il sonna au clairon le premier cessez-le-feu de la guerre le 7 novembre 1918 à 20h30. C'était à la Pierre d'Audroit, un lieu situé près de la Capelle dans l'Aisne. Là, vous saurez tout. Hein. Alors, quatre jours plus tard, le 11 novembre 1918 à 5h, l'armistice sera signé à Retonde.
Au lieu du premier cessez-le-feu, on a élevé un monument en granit des Vosges, inauguré le 5 novembre 1925.
Et depuis cette date, jusqu'à sa mort en 1949, le clairon Cellier sonnera sur place chaque année le cessez-le-feu en commémoration. Entre-temps, il travailla chez Japy à Beaucourt, puis chez Peugeot à Sochaux.
Et les Américains lui ont proposé de faire en fait une grande tournée aux États-Unis pour y reproduire la sonnerie historique, mais il refusa. À défaut, ils lui proposèrent de racheter son clairon.
Il a refusé, on lui a proposé des sommes folles pour racheter son clairon, il n'a jamais voulu, et il a offert ce clairon aux Invalides où vous pouvez aller le voir. Donc c'est voilà. L'authentique clairon qui sonna le premier cessez-le-feu de la guerre de 14. Il est aux Invalides.
Deuxième question pour toi, Tom. 6 bonnes réponses sur 9, les garçons, et tu as ton bonus Basileus. Hein. Écoute bien, Tom. En 1942, l'USS Lafayette terminait sa carrière au Pier 88 de New York, c'est-à-dire au port 88 de New York.
Merci.
Sous quel nom ce navire est-il plus connu? Le paquebot Normandie ou le Nautilus?
Je vais utiliser le bonus Basileus.
Ah ouais, c'est triomphal. Triomphe romain, dirait mon ami Laurent Bruy.
Oui, triomphe romain pour mon Tom. Tom, merci d'avoir utilisé ce bonus que nous aimons tant avec Clémentine. Eh bien, la bonne réponse, c'est le paquebot Normandie qui a terminé dans un tragique incendie, d'ailleurs, alors que l'on transformait celui qui était considéré, en fait, comme le plus beau paquebot du monde en transport de troupes.
Oui, c'était la guerre. Alors, le Normandie avait été réquisitionné l'année précédente en vertu du droit d'Angarie.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Le droit d'Angarie, c'est la possibilité pour un pays de saisir toute propriété en temps de guerre, toute propriété pouvant servir à l'effort de guerre. Alors les gardes-côtes s'étaient rendus maîtres du navire, voulant empêcher toute possibilité de sabotage par l'équipage français.
Alors, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, en 1941, l'État français du maréchal Pétain collabore avec l'Allemagne. Hein.
Oui, mais les officiers du Normandie vont obtenir que ne soit pas baissé le pavillon, amener le pavillon, le pavillon français. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Normandie est rebaptisé début 42 USS Lafayette. Et évidemment, nos auditeurs le savent par cœur, c'est le nom de ce général français si cher au cœur des Américains.
On décide alors de transformer en transport de troupes, évidemment, mais il a été question un temps de le transformer en porte-avions. C'est quand même plus compliqué d'être en porte-avions.
De toute façon, ça ne sera ni l'un ni l'autre, puisqu'au cours des travaux, un incendie va détruire ce fleuron de la transatlantique. 20 ans plus tard, en 62, un nouveau navire de la Transat viendra occuper le Pier 88 de New York.
Il s'agit du paquebot France.
Ah, ça sera le France cette fois. Oui.
Inauguré cette année, donc, pardonnez-moi. Et dont on fête actuellement, vous savez quoi, les 50 ans, notamment au travers d'une exposition inaugurée hier au Havre. Paquebot France qui se déroulera jusqu'au 23 septembre. Je vous conseille d'aller voir cette expo.
C'est vous qui partez dans l'Ouest, là, vous allez pouvoir y aller, Laurent.
Oui, mais ça me plaît beaucoup, moi, ça. C'est une bonne idée, je trouve, de faire une expo sur le France. Bon, les garçons, pas mal, 1:10 pour la finale. Basile et Tom, 17 et 13 ans, qui habitent près de Saumur. Et à la clé, il y a ce fameux séjour au Puy du Fou que nous vous souhaitons.
Garçons, hein.
Là, faut y aller, les gars. Hein. Alors, il y aura 3 questions. Est-ce que vous êtes prêts, Basile et Tom?
Nous sommes prêts, tous les deux.
Écoute, on se désintègre et on se reconstitue après ça.
Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
On est bien avec Basile et Tom, 17 et 13 ans.
Ah oui, mais alors là, les garçons, les Athéniens s'atteignirent. Hein,
là, c'est la finale, les amis. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Vous avez 1:10 pour répondre à 3 questions et vous partez en séjour au Puy du Fou pour 4 personnes, la Cinécénie, le village gallo-romain. Breuvage romain aussi. Ouais, c'est magnifique, on adore ça. Nous. Vous allez vous régaler, les garçons. Allez, est-ce que vous êtes prêts, Tom et Basile? Alors attention, on y va. 1:10, c'est parti. Avec quel roi Marie-Thérèse d'Autriche se marie-t-elle le 9 juin 1660?
Avec Louis...
Ben oui.
Oui.
15.
Non.
Louis XIV.
Louis XIV. 1674. Qui prend le pouvoir par le coup d'état du 18 Brumaire en 8? C'est-à-dire...
Napoléon.
Oui. Bravo. Oui.
Quel nom a-t-on donné au jeudi 24 octobre 1929? Jeudi 24.
Attention. Non, le jeudi, c'était en 29.
Jeudi noir.
Oui.
Jeudi.
Ouais. Bon. Alors, le jeudi de l'ascension, il était magnifique. Oh, Basile, je l'ai gardé celle-là. Non, c'est Tom qui me l'a faite.
C'est Tom qui l'a
faite. Ouais, c'est génial. Très, très drôle. Bon, les garçons, vous avez mis 32 secondes
bravo,
à répondre.
Bravo, les garçons. C'est bien. Vous avez déjà été au Puy du Fou?
Oui. Hein, mais ça
change tous les ans là. Puis il y a une nouvelle attraction sur les fables de La Fontaine qui est merveilleuse, vraiment extrêmement poétique.
Vous irez voir le bal des oiseaux fantômes. Oui. Hein, vous aurez une pensée pour moi.
Envoyez-nous une petite photo de vous entre deux canards au bal des oiseaux fantômes.
Entre deux canards, tu as raison, c'est bien.
Deux vautours.
Oui, entre deux vautours.
Oui, vous avez raison.
C'est plus risqué.
Vous y allez pour séjour pour 4 personnes. Hein. Vous avez bien de la chance avec cette magnifique Cinécénie. Bon, vous avez été bien, les garçons, Basile et Tom, là. Ça s'est bien passé quand même. Hein. Marie-Thérèse d'Autriche, bon, évidemment, 1660, ça peut être que Louis XIV.
Ah, voilà.
Hein, bon, ça, c'est fait. Le 18 Brumaire en 6, c'est le 9 novembre 1799. Je suis très fort en 8, en 6. C'était 91, hein, ça a commencé, vous m'avez dit, Claude. Hein. C'est le directoire, voilà. Enfin, vous connaissez. Napoléon devient premier consul. Étape suivante, ce sera l'Empire. Et là, Clément se lève.
Non, je reste extrêmement stoïque.
Et alors attends, le jeudi 24 octobre 1929, Tom, c'est pas le jeudi de l'Ascension. Ça, j'ai adoré. Ça, c'est génial, j'adore. C'est le jeudi noir. C'est le jour du crack de Wall Street hein, qui a provoqué la crise, qui mènera le monde à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le New Deal, c'était une façon de sortir de cette crise. On dit souvent 29, le New Deal, machin, enfin voilà quoi.
Oui, on le dit très souvent.
Ouais, mais
moi-même,
oui,
je le dis assez souvent.
Ça s'appelle le New Deal, c'était Roosevelt.
Bon, c'est bon. Allez, c'est bon.
Je vous retrouve la semaine prochaine à 13h30. Vous allez faire ça?
C'est possible.
Un
avec
peu d'ombre d'un doute cette semaine.
Un petit coup de bonus, s'il vous plaît, qu'on finisse sur deux.
Non, pas
celui-là. Ah, voilà. Et là, nous pouvons faire des adieux à la foule en liesse dans les arènes du Puy du Fou où sont dévorés les premiers chrétiens.
Elle est dans un état, vous imaginez. Vous savez que je l'ai toute la semaine comme ça. Tu vois un peu le dossier. C'est son mari que je plains. Je t'embrasse, Manu. bravo, Basile et Tom. Vous avez été top, les garçons.
On se réjouit pour vous, vraiment. Vous alliez au Puy du Fou.
Bon, dites donc, inscrivez-vous sur RTL.fr cette semaine. Voilà. Allez voir les questions, il y a tout, hein, mes enfants. Bon, on a rendez-vous maintenant avec Éric Jean-Jean et la liste préférée. Mais la liste préférée de qui? De Maud Fontenoy, c'est Journée de la Mer aujourd'hui. Allez, on y va. Bonne semaine à toutes et tous sur RTL.